Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, sans surprise, pour me rejoindre mon ami et collègue, le grand voyageur qui s'est couché tard ce matin, Marc Bouchard. Salut Marc.
Pourquoi tu parles de ce matin? À mon avis, je me suis même pas rendu au matin.
Ben oui, tu m'as dit que tu étais arrivé à la maison à 2h. 2h du matin, c'est aujourd'hui.
Je suis vert, littéralement. Là.
Ouais, ouais.
Sincèrement, c'était... Et tu seras heureux d'apprendre que même la nuit, la ville de Montréal a de la congestion, mon ami.
Ah ça, j'ai aucun doute là-dessus. Justement, je m'en vais au centre-ville plus tard dans la journée. On enregistre jeudi, là, je m'en vais dans cet enfer un peu plus tard cet après-midi, puis je suis comme pas out. J'essaie d'éviter des événements au centre-ville de Montréal parce que c'est tellement désagréable d'aller là, mais là j'ai comme pas le choix, j'ai une invitation pour aller quelque part, puis je vais y aller, là, je vais me forcer, mais c'est vraiment pas agréable, ni entrer ni sortir de cette ville-là, peu importe l'heure, là, c'est vraiment désagréable, là. Mais bon.
Alors puis écoute, comme je te dis, ce qui est particulier, c'est que effectivement j'étais... écoute, de nuit, là, fait qu'il y a les travaux qui s'appliquent.
Ouais, encore plus.
Et là, ouais. Et là écoute, c'était l'enfer. La 40 était fermée en partie. Après ça, l'enfer. J'ai profondément détesté ça.
Non, c'est vraiment pas grave. Mais bon, oui, c'est de la circulation. Oui, ça fait partie du monde automobile. Mais c'est tellement la partie la moins agréable de ce monde-là. On essaie d'éviter.
Malheureusement, on n'y échappe pas vraiment.
Non, vois. Malheureusement. Là, juste pour les gens, ça se peut que ça sonne un peu différent cette semaine. J'ai un nouveau micro. J'ai une nouvelle configuration. Mon autre micro que j'avais depuis 2012 commençait à se sentir un peu vieux. Puis, de temps en temps, débarquait sans me donner de petits signes comme quoi qu'il allait débarquer. Donc, j'ai un nouveau micro. Donc, ça se peut que ça sonne un petit peu différent. On verra. J'espère que c'est mieux. Bon, Marc, on a plusieurs nouvelles aujourd'hui, dont quelque chose d'assez surprenant. Ford a décidé d'abandonner les voitures.
Oui, en fait, pas toutes.
Non.
À ton grand bonheur, pas toutes, c'est-à-dire qu'ils vont garder la Mustang.
Ça aurait été vraiment stupide de lâcher ça, par exemple, parce que c'est comme l'icône de chez Ford. Là.
Non, effectivement, on peut pas, absolument pas abandonner ça, c'est clair. Mais oui, Ford a décidé d'abandonner, en fait. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de 2020, il n'y aura plus de Ford Fusion, il n'y aura plus de Ford Focus, il n'y aura plus de Ford C-Max, il n'y aura plus de Ford Taurus et il n'y aura plus de Ford Fiesta. Dans les faits, ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas renouveler ces voitures-là. Donc, on les laisse aller à la fin de leur vie active et on a décidé de ne pas les renouveler.
Mais le C-Max, c'était déjà prévu. Là. Le C-Max, ça fait longtemps que ça a été annoncé.
Puis la Focus, on a vu la version 2019, mais pour les autres pays. Et là, finalement, il semble que ça ne sera pas tant que ça. Donc, on les laisse aller à la fin de leur vie active et après ça, on les éteint. Il y aura juste le Focus Active, qui est un mini multisegment, là, qui est annoncé, qui lui va rester et qui va garder le nom Focus. Et comme on l'a dit, la Mustang. C'est pas nécessairement une grande surprise, pour être honnête.
OK.
Parce que, tu sais, je te donne un exemple. Juste un exemple. La Ford Fusion, mettons.
Ouais.
OK? Mm-hmm. La Ford Fusion, si on regarde les chiffres de vente, OK, au Canada, en 2013, il s'en vendait 20 145 par année.
OK.
295 000 aux États-Unis.
OK.
OK? Mm-hmm. Ça va comme ça. Les années suivantes, 2014, 18 000 chez nous, 306 000 aux États-Unis. 2015, 15 000 chez nous, 300 000 aux États-Unis. En 2017, c'est 9 000 qui se sont vendus au Canada et 209 000, soit 100 000 de moins aux États-Unis.
Ouais, faut dire, par exemple, que Ford n'avait pas renouvelé nécessairement la Fusion. Là. Quand elle est sortie, c'est la nouvelle Fusion, c'est quoi? Justement, c'est dans ces alentours-là, 2012-2013, le nouveau modèle là, qui est arrivé. C'était vraiment un peu révolutionnaire parce que c'était la première berline qui avait l'air de quelque chose un peu plus sportif que d'une berline, mais le design s'est essoufflé quand même assez rapidement. Là.
Effectivement.
Puis on n'a pas cru bon de la renouveler.
Mais tu sais, si on prend la même chose de la Focus,
ouais.
Focus en 2013, il s'en vendait 25 000 au Canada, 235 000 aux États-Unis.
Mm-hmm.
Si on va en 2017, on est à 16 000 au Canada contre 25 000, je te rappelle, et 168 000 aux États-Unis. Et l'année passée, c'est 158 000 aux États-Unis, puis 11 900 au Canada.
Ouais.
Tu sais, on est vraiment sur une pente descendante. C'est normal. 70 à 80% des ventes, ce sont des VUS, peu importe la compagnie.
Ouais, mais aussi la compétition fait mieux. Fait que
t'as
normalement plus équipé pour moins cher aussi. Fait que c'est pas la Fusion puis la Focus, c'est pas nécessairement la première option des gens sur leur liste. Ils vont peut-être aller voir d'autres choses. T'sais.
Ouais, c'est peut-être vrai, mais en fait, c'est parce que c'est comme ça pour toutes les compagnies.
Ouais, ouais.
Il n'y a pas de compagnie actuellement. T'sais, si je vais voir là, les résultats des autres, c'est pas mieux. Là. T'sais, on n'est vraiment pas dans des grandes ventes pour ce qui s'appelle Berlin. Puis, on va parler un peu plus tard de la Buick Regal Sportback que je suis allé essayer.
Mm-hmm.
Et les gens de Buick nous disaient, écoutez, le marché de Buick au Canada est en hausse incroyable. Nos parts de marché augmentent, tout augmente. Mais 83 % des ventes, ce sont des VUS.
Ouais.
C'est pas des voitures.
Puis, si tu regardes à la télévision, le trois quarts des pubs qu'on voit présentement, c'est des pubs pour des VUS. Des petits camions, des VUS très, très petits, des plus gros. C'est vraiment ça.
C'est ce que les gens veulent.
Ouais.
Fait que les gens ont l'impression de se sentir plus en sécurité. Et il faut aussi comprendre que ces véhicules-là sont désormais aussi économiques qu'une voiture.
Oui, ouais, ouais, c'est sûr.
C'est vraiment là, on n'a plus... Avant ça, la contrainte de ces véhicules-là, c'était vraiment que ça coûtait cher de gaz, puis on ne savait pas comment gérer ça. Mais là, c'est plus vrai. Là. Les petits utilitaires là, sont désormais beaucoup moins gourmands qu'ils ne l'étaient.
Oui, ouais, surtout.
Clairement.
Ben, pas partout, là, mais ouais, majoritairement, ça consomme pas nécessairement plus qu'une berline compacte. Là. C'est ça.
Un peu plus quand même. Là,
bon, mais... ouais, c'est ça, dépendant du modèle, dépendant de la grosseur, là, mais ça consomme pas nécessairement beaucoup. Là.
Non, effectivement. Alors, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas du tout que les gens se tournent vers ça. Et il y a toute la notion de, comme je te dis, de sécurité qui est vraie ou pas vraie, en fait.
Oui, c'est une fausse impression de sécurité des fois, là, parce que les véhicules passent à travers les mêmes tests normalement, puis un véhicule qui est 5 étoiles, qui soit un VUS ou une voiture, est aussi sécuritaire un que l'autre. Mais des fois, on est un petit peu plus haut, on se sent un peu plus... Ça nous donne une impression de sécurité ou des fois de supériorité, si on est vraiment si haut.
Ça, c'est dans ta personnalité.
Non,
ça,
pas fait. Du tout. Mais bon. Mais c'est quand même une décision... Bon,
mais
on se retire d'un marché. C'est quand même étonnant parce qu'on se retire complètement d'un marché.
Oui, pis... mais il faut quand même faire attention. C'est vrai pour ça. Moi, je suis convaincu que Ford va arriver avec d'autres types. T'sais, ils ne disent pas on s'en va complètement puis... Oui, c'est vrai, pour le moment, il enlève ça du line-up là, de l'Amérique du Nord, mais on va voir ce qui va se passer ailleurs. Pour le moment, on a confirmé qu'on gardait la Focus ailleurs,
ouais.
Donc on verra ce que ça va donner. Mais c'est sûr qu'ils vont aussi arriver avec d'autres types de véhicules. Ils peuvent pas garder juste l'inventaire qu'ils ont actuellement. Ils peuvent pas garder uniquement les modèles qu'ils ont actuellement.
Non, mais ça serait le temps de faire un bon coup de balai, là, puis de ressortir peut-être une berline. Tu n'as pas nécessairement besoin de Taurus ou de choses comme ça, mais une berline intermédiaire, mais peut-être un nouveau nom, un nouveau design, quelque chose qui attirait peut-être plus les gens. Comme je disais, la Fusion, le design était essoufflé. Peu importe comment tu regardais, ça paraissait qu'elle avait pris de l'âge, même si on... essayer de la rajeunir un peu. On dirait que Ford n'était pas capable de suivre les autres constructeurs dans la modernisation de cette voiture-là.
Ben, il a fallu qu'il la refasse presque au complet, en fait.
Ouais, il aurait fallu.
Ouais, vraiment
ça aurait été le temps. Là. Franchement, là, depuis 2012-2013, ça aurait été le temps d'un bon ménage puis d'une bonne cure de rajeunissement. Là.
Effectivement, mais bon, pour le moment, on n'est pas là. Sauf que dans le rapport, parce que ça a été annoncé dans un rapport financier qui a été présenté là, aux actionnaires pour le premier trimestre. Un premier trimestre qui n'a pas été particulièrement jojo d'ailleurs. Là. Écoute, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a augmenté les profits, pas les profits, mais les ventes.
Mm-hmm.
On parle de 1,7 milliard, soit une hausse de 100 millions. Mais le problème, en fait, c'est que la marge de profit a été coupée, elle. Donc, on fait moins d'argent qu'avant. On en vend plus, mais on fait moins d'argent qu'avant. Donc, évidemment, dans une compagnie, c'est le temps de se reposer des questions. C'est donc là que vient la décision. Sauf que c'est pas non plus une grande nouveauté. Hein. On va se dire les vraies affaires, là. Si tu as été un peu attentif à ce que je t'ai dit au cours des dernières semaines,
Des fois, tu parles, mais je t'écoute pas nécessairement.
Oui, je sais, c'est pour ça que je
Ouais,
te
vas-y.
permets de le répéter.
Vas-y.
Ici, tu te rappelleras qu'il y a quelques semaines, Ford avait annoncé qu'ils étaient pour miser beaucoup plus sur l'électrification de certains de leurs modèles. Et déjà là, il y avait parlé des nouveautés, parlé du nouveau Bronco, du nouveau Ranger, des F-150 hybrides, de la Mustang hybride. Mais ils n'avaient jamais mentionné les berlines. Jamais. Et quand
Ben,
les gens leur
c'est
posaient
parce
la
qu'on
question.
l'avait déjà dans la fusion, là. On avait la énergie, puis on avait la fusion
Oui, mais
hybride.
on sait, quand on a posé les questions sur les berlines, les dirigeants de Ford faisaient un effort pour ne pas répondre aux questions.
À Jésus?
Ah, je.
À Jésus,
Fait
oui. C'est ça. Ça vient de
ah.
François Pérusse, ceux qui savent pas.
Oui, c'est ça exactement.
Ouais.
Franchement, ce matin, je m'excuse, j'ai pas dormi beaucoup. Quand je suis rendu, je te trouve drôle là même, là, c'est parce que j'ai vraiment besoin de sommeil.
Ouais, besoin d'aller faire un petit dodo.
C'est ça. Mais bon, donc tout ça pour dire que donc effectivement, donc c'est une décision décevante dans une certaine mesure, mais qui est pas si décevante que ça, qui est relativement prévisible, disons, dans le cas de chez Ford. Moi, je suis convaincu, il se laisse la place pour d'autres types de véhicules. On parle, en fait, quand on lit le rapport, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils se sont laissés un espace vacant en matière de silhouette de véhicule pour un véhicule qui combinerait à la fois les meilleurs attributs d'une voiture et à la fois les meilleurs attributs d'un véhicule utilitaire de sport, comme par exemple la hauteur, l'espace et la polyvalence. Donc, ce que ça veut dire, c'est dans les faits, on va vous présenter un nouveau véhicule, ce ne sera pas long. Ça sera pas tout à fait une voiture, ça sera pas tout à fait un SUV, ça va être quelque part entre les deux. Fait qu'on va revenir au
Un
C100.
Subaru Crosstrek avec une badge de Ford dessus.
C'est à peu près ça, en fait.
C'est là. Quand tu décrivais l'auto, je me disais, ouais, un Crosstrek finalement, ou un Volvo. C'est quoi, c'est les XC ou les V? Les V? Ouais.
Les XC. Les V, c'est les familiales.
Ouais, c'est ça. Fait que quelque chose comme ça, là. C'est une voiture haute sur pattes, là.
Ben, les XC sont faites pour être. Non, pas les XC. Oui, c'est les XC. Je suis un peu mêlé avec les affaires Volvo, là, mais oui. Donc, c'est ça. Les XC, ce sont les cross-country, là.
C'est ça. Fait que on s'en va un peu vers ça, là, finalement.
Exactement. Exactement.
OK, c'est bon. Donc, assez pour Ford présentement. Tu veux aussi nous parler de Volkswagen et Audi qui, finalement, ont réglé le litige qu'il y avait pour les moteurs V6 de 3 litres qui étaient diesel dans le Dieselgate. Est-ce la fin du Dieselgate?
Hey, on va le souhaiter parce que je suis un peu tanné d'en parler, là. Faut le dire. Mais oui, effectivement, c'est la fin du Dieselgate. En fait, ce qui se passe, c'est que le juge a finalement accepté l'entente qui avait été convenue avec les gens. Donc, c'est vraiment. Il y a 20 000 personnes qui vont enfin pouvoir régler leur dossier. 15 000 qui ont un modèle Audi, Volkswagen ou Porsche qui datait des années 2013 à 2016. 5 000 autres qui en ont un de 2009 à 2010, de 2009 à 2012. Évidemment, comme dans le cas de Volkswagen, il y aura toutes sortes d'options, là, des compensations, on rachète le véhicule à la valeur du 2 novembre 2015, vous pouvez le faire réparer, parce que dans le cas du V6 3 litres, il existe effectivement une solution de réparation qui est connue et qui est efficace. Donc, ça va être ça. En moyenne, les gens vont recevoir entre 1 582 et 10 000 $. Selon le modèle qu'ils ont, selon l'âge, selon le fait qu'il a été acheté ou loué, parce qu'évidemment, c'était pas tout à fait pareil, si votre bail est fini ou pas. Bref, il y a toutes sortes d'options. Dans l'ensemble, c'est quand même ça. Ça va donc être fait. 229 millions de dollars, c'est ce que ça va coûter à Volkswagen pour enfin régler le cas des moteurs diesel 3 litres. C'est un juge de la Cour suprême de l'Ontario qui a accepté ça il y a quelques jours à peine. Ça va être enfin terminé pour cette histoire-là.
Ouais, mais quand on connaît l'histoire dans tous ces petits raccoins, c'est mérité.
Ah oui, non, je veux dire,
Ils
je
ont
pense que
mérité la
personne.
tape monumentale qu'ils sont en train de recevoir.
Ben, tape monumentale. Moi, là, ça me fait rire.
Ben, c'est de l'argent.
Ça leur coûte, ah, ça leur coûte de l'argent, mais ils sont riches noirs. Puis ils sont à ce point riches noirs. Et en plus, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont. Ils sont en train de devenir numéro un mondial.
Non, ils ont réussi leur pari pareil. Malgré tout, ils ont réussi le pari qu'ils avaient fait parce que quand ils ont sorti le diesel propre. Puis là, voyez les gros guillemets à propre là, que j'essaie de mettre. Là.
Oui.
C'était pour prendre la première position mondiale. Volkswagen se disait qu'avec ça, il serait premier mondial.
Effectivement.
Et ça a quand même réussi. C'est ce qui est un peu malheureux, c'est que ça a quand même réussi. J'aime Volkswagen, j'aime la manière que les voitures se conduisent en majorité, mais d'avoir fait ça de la manière qu'ils l'ont fait, c'est vraiment pas un bon citoyen corporatif. Là. Puis allez voir le documentaire Argent sale, puis c'est vraiment... C'est pire qu'on peut penser. Je pensais pas que c'était si pire que ça, ce que Volkswagen avait essayé de faire pour montrer patte blanche même en disant oui, c'est réparé, pour s'apercevoir que c'était pas réparé du tout. Ils avaient juste amélioré leur système de défaillance ou de détournement des tests en laboratoire. C'est incroyable. Fait que ils s'en sortent quand même bien parce que ça aurait pu être pire. Ça aurait pu juste être, ben, vous avez assez. On vous a mis ce que vous avez fait sur la table. Vous nous avez dit que c'était réglé en nous comptant encore plus de mensonges. Ben, c'est dommage, mais vous pouvez plus vendre de véhicules aux États-Unis. Mais bon, on s'entend, Volkswagen a des usines là-bas. Ça coûterait des milliers d'emplois. Fait que le gouvernement américain ne peut pas faire ça, mais c'est ça qui aurait probablement été mérité. C'est, regarde, tu n'as juste plus le droit de vendre de véhicules ici. Là. On n'a plus confiance en vous. Tout ce que vous nous dites, c'est des mensonges. Mais
exactement.
C'est ça. Mais ils s'en sortent quand même assez bien malgré tout, mais c'est une bonne taloche pareil. C'est beaucoup d'argent, mais
oui.
les gens vont oublier très, très rapidement. Là. Ils ont tellement des véhicules intéressants à Volkswagen qu'à un moment donné, les gens vont oublier et vont continuer à conduire des véhicules Volkswagen quand même.
Et ce qui est particulier, c'est que les amateurs de Volkswagen sont des fans finis. Là.
Oh oui.
Je veux dire, c'est vraiment des fans absolument finis. Là. Ils adorent la voiture, puis c'est correct. Là. C'est pas, je dis pas ça méchamment d'aucune façon. Là.
Non, c'est ça. Mais on faut s'entendre, une GTI, c'est une GTI. Là. C'est dur à battre côté agrément de conduite, puis côté pratique, puis tout ça. Là. C'est dur à battre, là. Une Golf GTI.
Oui. Effectivement.
C'est une petite voiture de course qui est bonne pour la famille au complet. Là. Mais bon, donc c'est beau, Marc, on va terminer là-dessus. On va aller faire une pause. On va revenir tout de suite avec Martin Archambault de l'AVEC pour parler de véhicules électriques. Puis après ça, on revient et on va faire tes essais de la semaine. Nous sommes de retour et c'est l'heure d'aller rejoindre notre spécialiste en véhicules électriques. Un homme qui vient de se faire réélire à son poste à l'AVEC, mon ami Martin Archambault. Salut Martin.
Salut, ça va bien?
Ça va bien toi?
Ben oui, ça va bien, merci.
Félicitations pour ta réélection.
Ben merci. Écoute, je suis bien content que les membres de l'association m'aient fait confiance là, pour un nouveau mandat. J'ai des petits dossiers en chemin, là, puis j'ai comme l'impression que ça va me donner la chance de finir ça correctement. Fait que je suis bien content.
Ah, super, je suis content pour toi aussi, puis en passant, j'ai gagné mes élections, ça arrive rarement, ça arrive rarement normalement, mais là, j'ai gagné mes élections, puis j'avais voté pour toi, je sais pas pourquoi.
En fait, ce qui arrive rarement, c'est qu'on vote pour quelqu'un qu'on a le goût qui rentre. Depuis quelques années, il me semble que dans à peu près tous les aspects de nos vies, on vote pour le moins pire du lot. Ouais. J'espère que c'est pas ça que tu étais obligé de faire.
Non, pas du tout.
Ben écoute, ceci dit, puis pour faire du pouce là-dessus, mon cher ami, il y avait quand même des super belles candidatures. En fait, toutes les candidatures étaient intéressantes. Et puis, fait particulier, puis on est bien content, mais très content même. On a une femme qui a été élue sur le conseil d'administration. Puis on le sait que les histoires d'auto, c'est souvent des patentes de gars, hein? Mm-hmm. Puis on peut se le faire reprocher à l'occasion, puis avec raison. Puis c'est pas le désir d'avoir plus de femmes qui manquent, je te le jure. On a déjà eu une femme sur notre conseil d'administration il y a quelques années. C'est juste qu'il y en a pas beaucoup, hein? Puis il y en a de plus en plus, remarque bien, des femmes qui ont des autos électriques. Mais il n'y en a pas autant que les hommes. Et puis, il n'y a pas non plus beaucoup de femmes qui s'impliquent, là, que ce soit pour les directions régionales, que ce soit pour les postes au sein du conseil d'administration. Il y en a un peu dans les bénévoles quand même. Mais on aimerait ça d'en avoir plus. Fait que quand on a la chance d'en avoir une, puis de surcroît qui s'est fait élire au sein du CA, je pense que ça va donner une drive un peu différente. Puis ça va être cohérent avec nos objectifs aussi de pas cibler par l'association uniquement l'homme standard là, qui est déjà un triple de char. On veut, nous autres, expliquer que ces autos-là peuvent être bonnes pour tout le monde, les hommes comme les femmes. Fait que ça va donner du sang neuf.
Super. Non, ça fait du bien. Je suis bien, bien d'accord avec toi. Ça fait du bien de voir une femme parmi toute cette gang de
testostérone-là. Ouais. Il va peut-être avoir moins de jokes de mon oncle dans les réunions du conseil d'administration.
On espère qu'elle va vous tenir qu'elle va vous tenir en laisse un peu,
messieurs. Ouais, j'y souhaite. En tout cas, l'air d'avoir de la drive, ça va être bien le fun.
Super. Donc, Martin, tu as quelques sujets pour nous aujourd'hui. Tu veux nous parler du salon du véhicule électrique de Montréal qui se passait la semaine dernière. Là.
Tout à fait. Ça avait lieu le week-end passé, donc de vendredi à dimanche inclusivement. C'était 3 jours à la place Bonaventure. Écoute, juste peut-être te parler un peu. Tu dis que j'ai été élu. C'était les élections de l'AVEC qui avaient également lieu le samedi sur le site du salon. Donc, ça se passait tout en même place. Donc, c'est un gros week-end pour moi là-bas. Évidemment, l'AVEC, on avait un kiosque, mais il y avait pas mal de choses là. Peut-être te parler un peu, si tu permets, des trucs intéressants ou en tout cas ce que j'ai vu cette année. Premièrement, premier constat, il y avait plus de monde que l'année passée. Les premiers chiffres font état de 23 400 visiteurs.
OK, c'est bien.
C'est bien. Puis c'est un salon qui est très vaste. Hein? C'est-à-dire que si tu te rappelles, là, les allées sont larges, il y a de la place. Ça, c'est grand, la place Bonaventure. C'est pas un salon où tout est à l'étroit. Donc, ça paraît pas qu'il y a tant de monde que ça. Mais quand tu montes, nous autres, la salle pour la réunion était à mezzanine. Là. Quand tu montes à mezzanine, puis tu regardes ça, vidéo, tu fais comme... Oh wow, OK, il y en a du monde, tu sais. Mais quand tu es dedans, tu le sens pas. Je pense que c'est d'ailleurs une belle qualité là, d'être capable d'avoir beaucoup de monde, mais que tu n'as pas de sentier tout squeezé.
Ouais.
Fait que beaucoup d'intérêt, beaucoup de véhicules, en fait, de modèles différents. On le sent que c'est une année où il y a plus d'affaires qui sont disponibles que l'année passée. Je pense que c'est normal aussi. Les modèles poussent. On pouvait voir, évidemment, les modèles standards qu'on est habitué de voir. Ils étaient pas mal tous là, je te dis, à l'exception de Kia qui n'était pas là. Donc, il n'y avait pas de Kia Soul EV ou d'autres modèles, qu'ils soient prototypes ou non. Donc, Kia n'était pas là. Par contre, la compagnie cousine Hyundai était là. Donc, la Ioniq était là. Il y avait une Kona, en fait, un prototype de Kona qui était sur place. Mais vraiment en mode de prototype, c'est-à-dire verrouillé, on ne pouvait pas ouvrir les portes, puis le mot Kona, tu n'as même pas sur la carrosserie. Là.
OK.
Donc, ah oui, c'était visiblement un prototype. Écoute, moi, si j'ai un point, tu sais, j'ai adoré le salon, ceci dit, là, on s'est promené, on a parlé avec plein de monde, c'était bien le fun, mais s'il y a un point qui me fatigue, puis c'est un peu propre à tous les salons de l'auto, tu le sais, c'est que souvent, les gens qui sont là pour tenir les kiosques, c'est des firmes, des agences qui engagent avec des gens qui sont pas nécessairement des spécialistes du véhicule. Souvent, on leur a donné un peu d'informations ou une petite formation au préalable. Mais l'acheteur de véhicules électriques, c'est un acheteur qui est renseigné, qui a lu, qui connaît, qui sait, écoute...
Il a fait ses recherches avant. Il arrive ouais. pas là comme « Ah, ben j'aimerais ça avoir une voiture électrique, mais... » Je sais pas trop c'est quoi.
Non,
c'est rare un peu. Là.
Fait qu'on avait de la misère à avoir de l'info de plus que celle qu'on avait déjà. Là. Je te dis pas que les gens savaient rien. Les gens savaient, sous les représentants qui étaient là, savaient souvent à peu près la même affaire que nous autres, des fois même un peu moins. Mais c'est rare qu'on pouvait poser des questions puis qu'on ressortait de là en disant bon, ben j'ai appris de quoi aujourd'hui. T'sais. Fait que ça, c'est un peu plate. Fait que pour ce qui est du Kona, ben les seules affaires qu'on s'est fait dire, c'est ce qu'on savait déjà par rapport au que ça sera pas avant l'automne, qu'il est possible, en tout cas, ça se parle qu'il y ait juste le gros modèle de disponible, parce qu'on se rappelle que le Kona, il vient en deux déclinaisons, là, une déclinaison avec une batterie un peu plus grande, aux alentours de 64 kWh, puis un modèle aux alentours de 40 kWh, ouais. Mais ça serait probablement juste la 64 qui serait disponible en Amérique au début.
Ouais, selon le communiqué de presse de Hyundai, il parlait juste d'un modèle, il parlait du modèle à 400 km d'autonomie ou quelque chose comme
exact.
Ça, il parlait pas de l'autre, donc d'après moi, on s'enligne pour ça, là.
Oui, ça a l'air d'être ça, effectivement. Mais sinon, on n'avait pas beaucoup plus d'informations. Volkswagen également brillait par son absence. Ouais, ça aussi,
ben,
ça...
Ils ont un modèle et sont pas capables d'en avoir ses
plans. Exactement. Ben, en fait, on pourrait dire ça aussi de d'autres compagnies comme Hyundai avec la Ioniq qui est difficile à obtenir puis d'autres modèles, mais quand même, effectivement, c'est peut-être une façon de ne pas avoir expliqué pourquoi ils n'en rendent pas disponible, mais quand même. Donc, ce manufacturier-là brillait par son absence, mais les autres étaient tous là. Il y avait beaucoup d'engouement. Je ne te cache pas que le kiosque de Tesla était celui qui avait le plus d'engouement. Il y avait des Tesla 3, Tesla S, Tesla X et la Roadster qui étaient là en démonstration. Elles étaient au kiosque du groupe Tesla Québec. Là, elles étaient comme ceinturé là, d'une petite clôture là, pour empêcher les gens d'approcher. Donc, les gens ne pouvaient pas aller dans la voiture. Par contre, il y avait une Tesla 3 en essai routier, mais il fallait être dans les premiers dans la file d'attente avant l'ouverture du salon pour réussir à arriver en courant au kiosque de Tesla puis s'inscrire pour avoir des chances de faire un road test parce que ça prenait quelque chose comme 2 minutes puis la cédule de la journée était remplie. Là.
OK, ouais. Mais c'est la voiture que tout le monde veut essayer, là, mais tu sais. On s'entend, c'est un peu comme voir une licorne. Là. C'est,
ouais. Effectivement, puis c'était des voitures américaines, hein, donc des gens des États-Unis là, qui étaient venus pour permettre là, au groupe Tesla Québec de présenter la Tesla 3 au salon. Mais quand même, on sent qu'il y avait de l'engouement, c'était les gens étaient intéressés. La Mitsubishi Outlander était là, la Chrysler Pacifica PHEV également était là. Sont donc dans les modèles de voitures un petit peu plus grosses, un petit peu plus proche de la camionnette. On sentait qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de gens, hein, des familles, des jeunes familles, les gens qui veulent s'acheter des véhicules électriques, c'est aussi des jeunes familles. Puis le fait d'avoir un véhicule qui permet d'avoir 2 enfants, 2 adultes, transporter du stock pendant les vacances, c'est quelque chose, on le sent qu'il y a un besoin là. En tout cas, c'est un segment de marché pour lequel il y a de l'intérêt. Donc, ça a suscité beaucoup d'intérêt, de questions. Il y avait également beaucoup de fabricants, les fabricants de bornes, des entreprises d'énergie solaire, de panneaux solaires, donc c'était là. Le circuit électrique, évidemment, Flow. Une multitude de conférences qui étaient en rotation, là, des conférences qui duraient de 20 à 30 minutes, puis c'était une en arrière de l'autre, back-à-back. Donc il y avait tout le temps une conférence. Là, il y avait comme un 5 minutes de battement à chaque conférence, puis ça roulait. Puis quand même beaucoup de gens aux conférences. Fait que, puis c'est pas mal ce qu'on observe également dans nos événements à la VIC, c'est-à-dire que les gens, bon, oui, bien sûr, il y a des gens qui viennent, qui ne connaissent pas ça, qui veulent en apprendre un petit peu plus, puis qu'ils veulent, comme on dit, l'information de base, le BABA, la voiture électrique 101. Mais il y a de plus en plus de gens qui ont cette info-là déjà, puis qui sont plus dans des questions très précises au niveau de choix d'installation de borne, au niveau de caractéristiques bien précises d'un modèle par rapport à un autre, puis ils sont en décision, là, ils hésitent entre 2 modèles, puis ils ont besoin qu'on leur réponde à des questions bien précises pour les aider à se faire une tête. Donc, on sent que ça évolue dans la tête des gens. Bien entendu, c'est un événement de véhicules électriques. C'est sûr que les gens qui sont là, ils ont de l'intérêt. Là. Si on avait pris fait les mêmes conférences puis mesurer les mêmes échantillons au salon du véhicule, au salon de l'auto de Montréal, par exemple, ben c'est sûr qu'on aurait été un peu moins dans une clientèle, comme on dit, présélectionnée. Là, c'était tous des gens ou à peu près tous des gens intéressés par la chose, donc ça peut forcer un peu. Évidemment, j'ai dit tantôt qu'il y avait beaucoup de modèles. Ford était là avec sa Focus, la Spark EV était là. Donc, tous les modèles qu'on connaît, là, qui sont sur le marché, la Leaf, la nouvelle Nissan Leaf, beaucoup d'intérêt aussi autour de la Nissan Leaf, même si c'est un modèle qu'on connaît bien, qui est là depuis longtemps. Le nouveau modèle est différent. Il est plus, entre guillemets, standard, plus proche d'une Nissan standard que la Leaf l'était. Là.
Ouais,
c'est ça. Et là, on sent que ça accroche un peu plus monsieur et madame tout le monde. Puis c'est une voiture qui a des caractéristiques intéressantes pour le prix. Donc, évidemment, il y avait beaucoup d'intérêt là. Il y en avait plusieurs en démonstration, en fait. Il n'y en avait pas juste une, il y en avait 2 ou 3 là, de couleurs différentes. Donc, ça aussi, ça a suscité beaucoup d'intérêt.
Super. Donc, on espère que peut-être pour l'année prochaine, pour les organisateurs, ben arrangez-vous pour du monde qui connaisse ça sur place, peut-être.
Oui, ça va aider.
C'est un salon que les gens vont là pour s'informer. Fait que si la personne rentre, on connaît déjà pas mal sur les véhicules électriques, puis sort de là déçu parce que la personne qu'il a rencontrée au kiosque d'une telle ou telle compagnie en sait pas plus que lui, peut-être qu'il ne retournera pas l'année prochaine.
Tout à fait. Puis on sent que les gens veulent une information neutre. Donc, notre kiosque a été très populaire parce que nous, on ne vend pas de char, mais on donne de l'info au général. Puis on remarquait, on est facile à reconnaître. Hein, vous le savez, l'AVEC, notre couleur, c'est l'orange. Fait que nos bénévoles ont des dossards orange. Si on se promenait un peu sur le site, on se faisait accrocher, mais pour aller répondre à des questions dans d'autres kiosques, c'est-à-dire que le public nous demandait, voulait que ce soit nous qui répondions à leurs questions sur la Ford Focus plutôt que le monsieur de Ford. Donc, on sentait que les gens nous faisaient plus confiance dans le fond que les représentants qui étaient là. Je pense que ça en dit long. Bon, bien sûr, on peut se flatter un peu, dire ça en dit long sur le fait que les gens reconnaissent notre compétence, bien sûr, mais ça en dit long aussi sur le fait que les gens, très vite, juste piffait que les gens qui étaient là, c'était, ils étaient engagés pour le week-end pour répondre à des questions, mais c'était pas des professionnels. Ben, je dis pas pour tous les kiosques, là, on s'entend, mais pour plusieurs kiosques, c'était le cas. C'était des agences. Moi, j'ai essayé de faire des entrevues, puis les gens pouvaient pas me répondre, me disant, écoute, on n'est pas autorisé à le faire, on travaille pas pour, mettons, j'étais au kiosque de Ford, je travaille pas pour Ford, tu sais. Vraiment, c'était difficile.
Ce qui était un peu dommage, c'est comme si les gens se faisaient donner une brochure et disaient « Ah, tu liras ça en route pour le salon, tu as 10 minutes pour passer à travers la brochure. »
Ouais, c'est ça. C'est variable d'une compagnie à l'autre, mais règle générale, c'était un peu décevant.
Ouais, il faudrait qu'ils prennent ça un peu plus au sérieux. Bon, dernière petite chose, on va faire ça vite vite. Tu as les statistiques pour les ventes de véhicules électriques au Québec, les plus récentes.
Oui, les plus récentes du 31 mars, je te descends ça assez rapidement, là. On est rendu à 24 422 véhicules électriques sur les routes en date du 31 mars, donc tout près, là, presque rendu à 25 000. Si on regarde la courbe de croissance, puis est exponentielle, puis on garde le même taux de croissance exponentielle, on parle de probablement quelque chose aux alentours de mai-juin 2020 pour l'atteinte du 100 000 véhicules. Ça veut dire que s'il y a rien qui bougeait là, en termes de croissance, on va l'atteindre en 2020, mais pas en début de l'année, plus dans le milieu de l'année de 2020. Bien entendu, ça pourrait bouger. Là, la loi zéro émission va avoir probablement plus d'effet l'année prochaine, puis l'autre année que cette année, étant donné que les entreprises ont déjà des crédits d'accumulés dans plusieurs cas pour ceux qui vendent des véhicules électriques. Si on regarde les voitures les plus populaires, ben ça reste la Chevrolet Volt à 35 %, suivie de la Nissan Leaf à 16 %, de la Tesla S à 7 %. Je vais vous donner plus de détails tantôt. On reste aux alentours. Ça bouge pas beaucoup. Hybride rechargeable, 54 %, puis tout électrique, 46 %. Le tout électrique a augmenté dans les dernières années, mais depuis un petit bout de temps, ça semble vouloir être stable. Donc, on est presque 50-50 là, entre les deux. Évidemment, c'est le Québec. Québec, il y a 24 422 véhicules électriques, comme je viens de dire, sur un total au Canada de 53 000. Donc, on a encore 50, en fait 49, point quelques pourcents là, des voitures électriques au Canada. Ça va changer avec l'Ontario où la vente de véhicules, la vitesse, la croissance nous dépasse actuellement. Donc, l'Ontario devrait venir faire changer la donne dans les prochains mois, prochaines années.
Moi, je suis pas sûr de ça, par exemple, parce qu'il y a un changement de gouvernement qui pend en Ontario, puis ça a l'air que le gouvernement qui pourrait entrer n'est pas tellement pro-VE.
Ah, tout à fait. Là, tu fais référence à Ford.
Ça pourrait virer de bord.
Effectivement. Donc, les véhicules, ils sont où, ces véhicules électriques-là? Ben, ils sont principalement à Montréal. La plus grande quantité est à Montréal, suivie de Québec, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Terrebonne, Gatineau. Là, c'est en termes de chiffres absolus, mais en termes de pourcentage, si on regarde le pourcentage des véhicules, la région qui en a le plus, c'est la Montérégie, 26 % des véhicules électriques se trouvent en Montérégie. C'est quand même assez exceptionnel.
Montérégie represent, hein, Martin?
Yeah!
On fait partie tous les deux de la Montérégie.
Moi puis toi, oui, effectivement. Niveau des bornes de recharge, on est rendu à 3047 bornes de recharge niveau 2, donc des 240 volts, à 171 bornes de recharge rapide à 400 volts DC et 116 supercharger. Donc, la croissance est là et continue, mais au niveau des bornes de recharge, on prendrait une croissance un peu plus grande. Finalement, pour terminer, si on regarde au niveau des véhicules, parce que c'est ça qui nous intéresse ici sur ton podcast, ben, j'ai dit tantôt, la Volt, la Leaf et la Model S sont toujours en première, deuxième et troisième place. La Chevrolet Bolt en quatrième place. La Toyota Prius Prime est rendue en cinquième place, donc elle est en augmentation avec 4,7 % de segment de marché. Pendant ce temps-là, la Ford C-Max Energy, elle descend et la Kia Soul également descend dans les statistiques parce qu'il y en a d'autres qui montent pour prendre la place. De façon très surprenante, et on l'a revérifié deux fois pour être bien sûr, mais c'est bien ça, la Volkswagen e-Golf, qui est bien en haut de la Hyundai Ioniq au terme du nombre de ventes et de pourcentage de marché. Il y a 485 e-Golf sur le marché, contre seulement 386 Hyundai Ioniq électrique qui arrive en 15e place. Évidemment, si la tendance se maintient au niveau de la distribution, on peut s'attendre à ce que la Ioniq monte et que la Volkswagen descende, parce qu'il y a eu un pic là, quand elle est sortie, mais... Depuis, c'est assez anémique au niveau des ventes, donc ça ne devrait pas rester à ce niveau-là très longtemps.
C'est sûr, parce qu'il n'y en a pas. Fait. C'est dur à vendre quand on n'en a pas.
Effectivement. Fait que s'il y a des auditeurs qui veulent avoir plus de détails sur les stats, je les invite à aller sur notre site web au www.avq.ca. Actuellement, là, c'est dans les nouvelles, dans les actualités, vous allez les trouver, ou encore dans la section médias où on a un résumé de toutes nos statistiques. Là, ça va être facile à trouver dans la section médias.
Ben super, Martin. Merci encore une fois d'être venu faire un tour sur l'émission.
Ça me fait plaisir, mon cher ami.
Et on se reparle dans un avenir rapproché.
OK, merci beaucoup.
Nous, on fait une petite pause, puis on revient avec Marc et nos essais de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, exceptionnellement, non, ça arrive de temps en temps, mais cette semaine, c'est toi qui vas avoir le bloc essai à toi tout seul, parce que tu es allé essayer deux versions différentes de la toute nouvelle Buick Regal, qui, ma foi, est pas mal plus jolie que la version précédente. Là, j'ai vu des photos que tu as mises sur Facebook et c'est une très jolie voiture.
Oui, clairement. C'est vraiment une très, très belle voiture. On a vraiment bien réussi le design. C'est, il faut le dire, c'est la Buick Regal Sportback. Une voiture, en fait, qui utilise la notion Sportback comme on la connaissait à l'époque. Là. Donc, avec l'espèce de ligne presque d'un coupé qui s'étire vers l'arrière, qui donne un espace de chargement ma foi, fort intéressant et super facile d'accès. Et ça fait donc une ligne vraiment, vraiment intéressante. On a aussi refait, bien sûr, l'avant de la Buick Regal. Moi, je peux pas dire que je trippe tant que ça sur la grille de la Buick Regal. Je n'ai jamais trippé tant que ça, fait que ça m'arrive malheureusement.
Okay.
Mais quand même, c'est une belle voiture et c'est une auto qui, vraiment, quand on la regarde, là, elle se distingue littéralement. Elle est vraiment, vraiment jolie. À l'arrière, ben écoute, c'est les phares aussi. C'est, tu sais, là, on a vraiment fait un job de design assez, assez spectaculaire. À l'intérieur, on a aussi considérablement amélioré la voiture. Elle est vraiment mignonne. Et là, on va parler des deux versions. Pourquoi deux versions? Parce qu'il y a la version Sportback, qui est la version, je dirais, de base, et il y a la version GS, qui est la version un peu plus musclée.
Okay.
Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Colombie-Britannique, dans une région qui est entre Nanaimo et Tofino.
Okay.
C'est sur l'île de Vancouver, c'est au nord de Victoria un peu, et c'est probablement une des plus belles routes pour faire ce genre d'essai-là. C'est une route où, par moment, sur autoroute, les vitesses sont à 120 km/h, les autres, ça varie énormément. C'est une route extrêmement sinueuse, vraiment, vraiment beaucoup. C'est une route où il y a aussi des dénivelés assez imposants parce qu'on traverse une partie des montagnes. Donc, c'est vraiment une route pour aller tester les capacités réelles d'un véhicule comme celui-là.
Okay.
Et là, tu vas me dire, oui, mais une Buick dans des conditions de même, c'est pas nécessairement sa place. Parce qu'on s'entend pour dire qu'en général, les anciennes Buick, c'était pas nécessairement leur dynamisme de conduite qui était leur grande qualité. Il faut oublier ce que l'on sait à propos de Buick. Okay? Je pense que ça, c'est la première chose.
Bon, ça fait Buick... longtemps qu'il faut un peu oublier ce qu'on sait à propos de Buick, mais c'est comme Cadillac, ça colle un peu.
Oui, c'est ça. Mais là, imagine, ce que je ne savais pas et que j'ai réalisé quand on nous l'a dit, c'est que le plus vieux modèle de Buick est âgé de 18 mois. C'est la Buick LaCrosse.
Ouais.
Tous les autres modèles ont été renouvelés depuis 18 mois. Donc, ça fait une famille assez moderne, je te dirais. Là. On a donc vraiment complètement remanié la gamme complète. Et là, ben, on arrive avec un véhicule qui est probablement la meilleure expression de ce remaniement-là.
Okay.
Dans la version Sportback, c'est une voiture qui arrive avec le moteur 2 litres turbo de 250 chevaux que tu as essayé sur la Chevrolet Malibu. Un véhicule qui est jumelé à une boîte de vitesse automatique correcte. C'est sûr que dans les conditions où nous, on l'a essayé, il faisait très, très bien le travail. Le moteur est peut-être un peu bruyant. On avait parfois l'impression qu'il souffrait un petit peu, mais c'est normal. Écoute, on est vraiment dans un monde assez différent. Là, c'est vraiment une conduite dynamique assez spectaculaire.
Okay.
Il a quand même bien fait le travail. Et ce qui m'a vraiment impressionné, malgré tout, c'est le silence dans l'habitacle. On parle vraiment, ça s'appelle le « quiet tuning ». C'est la façon dont Buick règle son habitacle de façon à ne pas laisser pénétrer à l'intérieur trop de bruit. Et ça fait vraiment un bon boulot. C'est vraiment un habitacle considérablement plus silencieux qu'il ne l'était.
Est-ce qu'on utilise des matériaux ou c'est de la cancellation de bruit à travers le système audio qu'on fait?
Les deux, en
les
fait.
Les deux, OK.
Ouais, on a amélioré la finition, l'insonorisation physique, mais on utilise aussi un système de cancellation de bruit à travers le système audio, et ça fonctionne très bien.
Ben, Buick le faisait avec la Verano, qui était une cruise avec une calandre différente puis une carrosserie un peu différente, là, mais c'était beaucoup c'est plus ça. Silencieux dans la Verano que dans la cruise. Donc, Buick a la réputation d'être une voiture qui est un peu plus silencieuse à l'intérieur. Là,
exactement. Déjà. Et c'est bien réussi là-dessus aussi. Donc, Franchement, rien à redire là-dessus.
C'est bon.
Écoute, c'est sûr que bon, les sièges sont confortables correctement. Je te parle toujours de la Sportback. Là, okay? Les sièges sont confortables, les suspensions sont correctes, mais on sent que c'est une voiture qui est tournée davantage vers le confort.
Okay.
C'est vraiment une auto qui est faite pour, si tu te promènes en ville puis que tu aimes ça, ta petite randonnée tranquille, c'est une voiture qui fait très bien le travail. Qui est plus agréable à conduire qu'elle ne l'était, mais tu sais, c'est pas le grand frisson, on s'entend. Par la suite, j'ai mis la main au volant de la GS. Et là, on parle d'un autre monde.
C'est la version sportive, ça, c'est ça? Plus sportive, ouais. Okay.
Elle arrive avec un V6 3 litres de 310 chevaux.
OK, déjà là.
Oui, pas mal plus. Elle est équipée de freins Brembo, de suspension adaptative. Il y a des modes de conduite, le mode sport et le mode GS, entre autres, qui font varier à la fois la direction, la transmission et les suspensions.
Okay.
On parle vraiment d'un autre monde. Là, en fait, j'ai fait l'erreur de commencer par conduire la GS pour m'en aller.
Ouais.
Et là, on a vraiment... Je conduisais, j'avoue, de façon un peu plus dynamique avec mon caméraman assis aux côtés de moi. Puis vraiment, ça allait super bien et jamais on a eu de problème. Au retour, quand j'ai essayé la Sportback, les premiers 10 km où il y avait vraiment des routes sinueuses, je devais vraiment doser mes freinages parce que j'avais encore en tête la performance de la GS et honnêtement, c'est pas du tout le même niveau.
OK, ouais.
Est-ce que pour autant, ça en fait une voiture inconfortable? Pas du tout. C'est au contraire une voiture qui est extrêmement confortable. C'est une voiture qui fait un excellent boulot au niveau de l'insonorisation aussi. Même que des fois, j'aurais aimé un petit peu plus de son du moteur parce que, justement, on essaie d'avoir une petite conduite un peu plus active.
Ouais, des fois, c'est dommage. Hein? Des fois, tu as des voitures avec des moteurs intéressants, mais c'est tellement bien insonorisé que tu le sais pas. Tu n'as aucune sensation de ce bruit de moteur-là que des fois, tu veux entendre. Des fois, tu veux pas. Des fois, tu veux.
Effectivement. Fait que c'est évidemment donc la GS qui est vraiment plus performante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas, comme je te dis, fait de compromis nécessairement sur le confort pour la GS.
Okay.
Donc, on a des suspensions qui sont quand même très confortables. Oui, c'est vrai que la route, je peux vous le dire, là, il n'y a pas juste nos routes qui sont laides. Là. Là-bas aussi, l'asphalte était solidement magané puis que ça brassait pas mal. Mais ce qui était l'avantage, c'était comment la voiture est capable de contrôler le roulis. Et c'est vraiment une différence entre la GS et la Sportback. Je te le dis, mon caméraman a eu mal au cœur avec la Sportback en s'en venant, alors qu'il était très en forme avec la GS la veille en s'en allant. On sent qu'au freinage, la Sportback, il y a un transfert de poids plus imposant dans les virages. On sent vraiment que le transfert... Mais il n'y a personne qui va conduire une Sportback comme ça.
Mais non, c'est pas fait pour ça.
C'est pas fait pour ça. La GS est faite pour ça.
Ouais.
Et honnêtement, on a aussi mis des affaires fort intéressantes dans la GS. Par exemple, des sièges sont chauffants, bien sûr, ventilés, mais aussi massants.
Oh.
Ouais, ça, c'est intéressant. Ouais. Et ils sont même reconnus par l'Association des chiropraticiens d'Allemagne.
OK.
Il y a le logo là, certifié chiropraticien allemand sur le côté. Ah, je trouve ça très drôle. Mais dans les faits, je peux te dire qu'effectivement, avec mon 200 quelques kilomètres au volant, j'étais beaucoup plus confortable dans la GS au niveau du siège que je ne l'étais dans la Sportback.
Okay.
C'est pas que les sièges sont mauvais dans la Sportback, mais il y a vraiment une différence. Ce qui fait que pour à peu près 8 000-9 000 $ de différence entre les deux, on parle de 35 à 44 000 à peu près, moi, je vous dirais, mettez le 9 000 $ et allez vers la GS. C'est une voiture qui vaut vraiment la peine, qui est vraiment plus dynamique, plus agréable à conduire, qui est capable de faire le travail tout à fait de façon très souple, mais qui va vous en donner un peu plus. Oui, c'est plus cher, mais va vous en donner un peu plus.
Ben, c'est comme une petite sportive en tuxedo.
C'est ça, exactement.
Okay. Okay.
Faut préciser que Buick maintenant ne se mesure plus aux Allemands. On veut plus se comparer aux constructeurs allemands. On se compare plutôt à des constructeurs comme Infiniti, Acura, des trucs comme ça.
Okay.
Là-dessus, on est tout à fait dans la même mesure, à mon avis. Là, on est dans le même niveau.
Ouais, c'est plus Cadillac qui va se comparer aux Allemands maintenant, je pense.
Exactement.
Que Buick, ouais, c'est ça. Ouais,
c'est bon. Exactement ce qu'ils ont fait.
Ouais.
Buick, on en a parlé en entrée d'émission, c'est une compagnie qui est en pleine progression. Ça va très bien. Donc, je pense que c'est un bon choix. Si tu me demandes si je recommande la Buick Regal Sportback, définitivement. Évidemment, j'ai un petit faible pour la GS, mais si vous n'avez pas besoin de cette performance-là, vous allez quand même vous retrouver très, très confortable dans la version Sportback. Je dois dire, bon, rouage intégral de série sur la GS, optionnel sur la Sportback, il y a une version traction qui est disponible sur la Sportback. Autre détail aussi dont je n'ai pas parlé, c'est l'espace de chargement. On peut abaisser la banquette arrière sur toutes les versions. On peut l'abaisser en trois morceaux, là, 40, 20, 40.
OK, fait que la petite partie centrale peut s'abaisser seule.
Exactement. Et ça, l'avantage, c'est que tu t'en vas faire du ski avec des amis, tu t'en vas jouer au hockey avec des amis, tu peux mettre tes bâtons de hockey ou tes skis dans le milieu et ça ne t'empêche pas d'avoir deux passagers à l'arrière qui sont quand même relativement confortables. D'autant plus que, comme c'est la Sportback, elle s'étire un peu au niveau de l'empattement. On parle de quelques centimètres de plus au niveau de l'empattement. Et ça, on en profite dans l'espace de chargement et dans le confort. Merci. Donc, dans l'ensemble, c'est une voiture qui, honnêtement, m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Faut aimer le genre, tu sais, parce que dans ce créneau-là, là, Infiniti, Acura, ils ont chacun leur personnalité, je dirais, un peu. Mais en matière de conduite, moi, j'ai aucun problème à recommander la Buick Regal Sportback.
Ben, super. Ça fait du bien.
Du bien, hein?
Ouais, ça fait du bien. Ça fait des compétiteurs de plus pour les berlines un peu sportives et ces choses-là. Puis la Regal GS est vraiment jolie. J'ai vu des photos à son dévoilement. Là. C'est vraiment une belle voiture.
Ouais. Ben, super belle. D'ailleurs, vous pouvez lire mon essai complet sur marcbouchard.ca. Là. J'ai des photos aussi que j'ai prises à Tofino. C'est vraiment super beau comme endroit en plus. Okay. Le seul petit des reproches que je peux faire à la GS, en fait, c'est que pour une rare fois, j'aurais aimé ça des palettes au volant.
Ah, OK. Puis il n'y en avait pas.
Parce qu'il y a un mode manuel, mais il faut que tu y ailles avec le levier de vitesse.
Non, c'est pas intuitif, ça.
Non, vraiment pas. Puis quand tu fais une conduite un peu dynamique, ça te manque, là.
OK.
Mais bon, dans l'ensemble, là, c'est vraiment un bien petit détail.
Moi, souvent, c'est juste pour descendre d'une vitesse pour accélérer plus rapidement. C'est rare qu'on va l'utiliser pour monter d'une vitesse, mais on va souvent l'utiliser pour descendre, t'sais, rétrograder un coup pour se donner un petit peu plus de puissance pour un dépassement ou c'est quelque chose, sortir d'une courbe ou peu importe. Là. Mais bon, c'est tellement rare qu'on l'utilise que c'est pas. Ils ont probablement dû regarder le pourcentage de gens qui utilisent ça pour se dire bah, ça vaut pas vraiment la peine. Ou peut-être dans une version plus tard. On se garde peut-être des choses pour la version 2020. Ou deux, quelque chose comme ça. Mais bon.
Peut-être.
On verra. Bon, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
Ben, je l'ai mentionné sur mon blog marcbouchard.ca. Vous avez là mes coordonnées. Vous avez la possibilité aussi de voir les photos et de lire le texte. Sinon, bien sûr, Instagram, Bouchard_Marc. Twitter, c'est Marc_Bouchard. Ma page Facebook, Marc Bouchard. Et bien sûr, notre adresse courriel commune, info@saroulradio.com. On reçoit, Luc et moi, tous les messages et on vous répond, même si vous ne nous envoyez pas beaucoup de messages. Ça, je suis un peu déçu.
Non, aussi, vous pouvez nous écrire directement sur Facebook. On va répondre aussi. Donc, c'est ça. Facebook, Saroulradio. Twitter, Saroulradio. Moi, c'est Scalazormo sur Twitter. Luc Desormo sur Facebook. Desormo Luc sur Instagram. Ça fait pas mal le tour. Si vous voulez nous écouter, iTunes, Google Play, vous pouvez aussi télécharger directement l'émission de saroulradio.com ou nous écouter sur Radio Média Plus ou sportradio.ca. Donc, ça fait le tour de l'émission pour cette semaine. Marc, merci encore. Va faire un petit dodo pour te reposer et puis on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde.
Bye bye.